Soudain, on frappa à la porte. Sophie se leva d'un bond, mais comme Alberto ne bougeait pas, elle se risqua à demander. « On ne va pas ouvrir ?» Alberto haussa les épaules et finit par se lever. Ils allèrent ouvrir et se retrouvèrent face à une petite fille vêtue d'une robe d'été clair et d'une capuche rouge. C'était elle qu'ils avaient vue de l'autre côté du lac. Elle portait un panier plein de nourriture.
« Salut !» dit Sophie. « Qui es-tu »«
Tu ne vois pas que je suis le petit chaperon rouge ?»
Sophie leva les yeux vers Alberto qui fit un petit signe de la tête.
« Tu as entendu ce qu'elle a dit ?»«
Je cherche la maison de ma grand-mère, » dit la petite fille. « Elle est vieille et malade. Aussi, je viens lui apporter un peu de nourriture. »
« Ce n'est pas ici, » répondit Alberto. « Allez, passe ton chemin. »
Il prononça ces derniers mots en faisant le geste de la chasser du chemin, comme si elle eût été une vulgaire mouche.
« Mais j'avais aussi une lettre à lui remettre, »
poursuivit la petite fille qui tendit une enveloppe à Sophie. L'instant d'après, elle avait disparu.
« Prends garde au loup !»
lui cria Sophie. Alberto était déjà rentré, et Sophie vint le rejoindre pour poursuivre leur conversation.
Ça alors, c'était le petit chaperon rouge,
s'exclama Sophie une fois assise.
À quoi bon la prévenir? Elle va se rendre chez sa grand-mère où le loup l'attend pour la manger. Elle n'apprendra jamais. C'est quelque chose qui va se répéter indéfiniment.
Mais tu savais, toi, qu'elle s'arrêtait à une autre maison avant d'aller chez sa grand-mère?
Laisse tomber.
Sophie jeta alors un coup d'œil sur l'enveloppe, où était écrit « Pour Hilde ». Elle l'ouvrit et lut à haute voix.
« Chère Hilde, le cerveau des hommes est ainsi fait que nous sommes assez bêtes pour ne pas le comprendre. Ton papa qui t'embrasse. »
Alberto fit oui de la tête. « Il y a du vrai là-dedans. Je crois même que Kant aurait pu dire la même chose. » Il ne faut pas espérer comprendre qui nous sommes. De même que nous ne pouvons pas comprendre à fond ce qu'est une fleur ou un insecte, nous ne pouvons pas nous comprendre nous-mêmes, encore moins ce qu'est l'univers.
Sophie relut plusieurs fois la phrase sibylline, tandis qu'Alberto continuait sur sa lancée.
« Ne nous laissons pas troubler par les serpents de mer et autres apparitions de ce genre. » Nous avons encore toute l'éthique formulée par Kant à voir aujourd'hui.
Alors dépêche-toi, car il faut bientôt que je rentre.
Le scepticisme de Hume, vis-à-vis du message de notre raison ou de nos sens, amena Kant à se poser encore une fois toutes les questions essentielles. Et à ce titre, le problème de la morale est loin d'être accessoire. Hume déclara qu'il était impossible de démêler le vrai du faux, puisque ce qui est n'implique pas ce qui doit être. Selon lui, pas plus notre raison que notre expérience sensible ne nous permettent de distinguer le vrai du faux. Pour lui, c'était une pure question de sentiment, ce que Kant trouvait bien trop inconsistant comme fondement de la théorie.
Là, je suis bien d'accord.
Kant a toujours ressenti que la distinction entre le bien et le mal recouvrait quelque chose de réel. Il rejoignait en cela les rationalistes, pour qui la raison permettait de faire le tri. Tous les hommes savent ce qui est bien et ce qui est mal, et nous le savons non parce que nous l'avons appris, mais parce que c'est inscrit dans notre raison. Tous les hommes sont dotés d'une raison pratique, c'est-à-dire d'une faculté propre à la raison qui nous permet en toute occasion de distinguer le bien du mal sur le plan de la moralité.
C'est donc inné ?
Oui. La faculté de distinguer le bien du mal est innée comme toutes les autres qualités de la raison. De même que tous les hommes admettent le principe de causalité au sein de l'univers, tous ont accès à la même loi morale universelle. Cette loi est aussi absolue que les lois physiques pour les phénomènes naturels. Elle est le fondement de notre vie morale, comme peut l'être le principe de causalité pour notre entendement. Ou encore, que 7 plus 5 égale 12.
Et que dit cette loi morale?
Parce qu'elle précède toute expérience, elle est dite formelle. En d'autres termes, elle n'est liée à aucune situation particulière où se poserait un problème de choix,
Elle vaut pour tous les hommes, quelle que soit leur époque et leur société. Elle ne dit pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans telle ou telle circonstance, mais ce qu'il convient de faire en toute circonstance.
Mais à quoi ça sert d'avoir une loi morale en soi si elle ne nous dit pas ce qu'il faut faire dans une situation bien précise?
Kant formule cette loi morale comme étant un impératif catégorique. Par là, il veut dire que la loi morale est catégorique, c'est-à-dire qu'elle vaut pour toutes les situations et qu'elle est impérative, c'est-à-dire qu'elle donne un ordre auquel on ne peut qu'obéir. Kant formule cet impératif catégorique de différentes manières. Il commence par dire « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. »
Quand je fais quelque chose, je dois donc désirer que tous les autres, dans une même situation, aient la même attitude que moi. C'est ça?
Exactement. Ce n'est qu'à cette condition que tu agis en accord avec la loi morale que tu portes en toi. Kant formula cet impératif catégorique en disant « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. »
Ce qui revient à dire que nous ne devons pas utiliser les autres pour essayer d'en tirer un profit personnel.
Oui. Car tous les hommes sont une fin en soi. Cela vaut pour tous les autres, mais aussi pour toi-même. Tu n'as pas le droit de t'utiliser seulement comme moyen pour obtenir quelque chose.
Cela rappelle un peu ce dont on nous a rebattu les oreilles, à savoir, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse.
Oui, c'est un principe qui s'applique en toute situation et où on retrouve la loi morale formulée par Kant.
Cela dit, ce ne sont que des affirmations. Hume n'avait pas tort de dire que la raison ne peut distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux.
La loi morale est pour Kant aussi absolue et universelle que le principe de causalité, par exemple. La raison est impuissante à la démontrer, mais elle n'en reste pas moins incontournable. Personne ne peut le nier.
J'ai comme l'impression qu'au fond, nous parlons de la conscience. Tous les hommes en ont une, non?
Oui. Quand Kant décrit la loi morale, il décrit la conscience de l'homme. Nous ne pouvons pas démontrer ce que nous dit notre conscience morale, mais nous le savons malgré tout parfaitement bien.
Je cherche parfois à me montrer sous mon meilleur jour dans un but bien précis, comme par exemple pour me faire des amis.
Dans ce cas, tu n'agis pas, malgré les apparences, selon la loi morale. Même si c'est en accord avec la loi morale, ce qui en soi est très bien. Mais pour mériter le terme d'action morale, il faut que ce soit le résultat d'une victoire sur toi-même. Il faut que tu sentes que c'est ton devoir d'agir de la sorte. C'est pourquoi on parle souvent chez Kant d'une éthique du devoir.
Je peux ressentir que c'est mon devoir de recueillir des fonds pour la Croix-Rouge ou les Restaurants du Cœur.
Oui. Ce qui importe, c'est que tu le fasses avec le sentiment d'accomplir quelque chose de juste. Même si une partie de l'argent récolté n'arrive pas à destination et ne nourrit pas ceux qui avaient faim, tu auras suivi la loi morale. Tu auras agi par devoir, ce qui est aux yeux de Kant la seule chose qui compte, et non, comme on pourrait le croire, les conséquences de ton acte. L'éthique de Kant est une éthique de la bonne volonté.
Pourquoi tenait-il tant à savoir si on agissait selon la loi morale? L'essentiel est quand même d'agir pour le bien des autres, non?
Bien sûr. Kant serait d'accord avec toi sur ce point. Mais ce n'est qu'en étant conscient d'agir selon les commandements de la loi morale que nous agissons, dit Kant, librement.
Quoi? Nous ne sommes libres que lorsque nous suivons une loi? Ça paraît pour le moins paradoxal.
Pas pour Kant. Tu te souviens qu'il devait affirmer ou poser comme postulat que l'homme possède une volonté libre, autonome. Mais Kant reconnaît que tout obéit au principe de causalité. Alors, comment la volonté peut-elle être libre?
C'est à moi que tu poses cette question?
Kant divise l'homme en deux, ce qui n'est pas sans rappeler l'idée de la dualité de l'homme en tant que l'homme est à la fois corps et raison. Selon Kant,
Nous sommes des êtres sensibles, soumis à l'immuable loi de causalité. Nous ne pouvons pas choisir ce que nos sens perçoivent. Des expériences impriment leur marque en nous indépendamment de notre volonté. Mais nous ne nous réduisons pas seulement à cela. Nous sommes aussi des êtres doués de raison. Explique-toi. En tant qu'êtres sensibles, nous faisons partie intégrante de l'ordre de la nature et ne pouvons à ce titre exercer aucune volonté. Mais, en tant qu'êtres doués de raison, nous appartenons à ce que Kant appelle « das Ding an sich », c'est-à-dire au monde tel qu'il est, indépendamment de nos perceptions. En suivant notre raison pratique, qui nous permet de faire des choix moraux, nous manifestons notre liberté. Car en nous pliant à la loi morale, nous ne faisons qu'obéir à une loi que nous nous sommes imposée.
En un sens, c'est vrai. C'est moi, ou disons une voix en moi, qui me dit de ne pas casser les pieds aux autres.
Quand tu décides cela, même si ce n'est pas dans ton intérêt, tu agis librement.
On n'est en tout cas pas très libre et indépendant si l'on se contente de suivre ses pulsions.
On finit en effet par être l'esclave de ses désirs, de son propre égoïsme par exemple. Il faut une bonne dose d'indépendance et de liberté pour se détacher de ses envies et de ses désirs.
Et les animaux dans tout ça? Eux ne vivent qu'en satisfaisant leurs désirs et leurs besoins? Comment pourraient-ils être libres comme nous en suivant une loi morale?
Non, c'est justement cette liberté qui fait de nous des êtres humains.
Maintenant j'ai compris.
Pour conclure, on pourrait peut-être dire que Kant a réussi à sortir la philosophie de l'impasse où elle se trouvait, avec la querelle entre les rationalistes d'un côté et les empiristes de l'autre. C'est pourquoi Kant marque aussi la fin d'une époque dans l'histoire de la philosophie. Il mourut en 1804, à l'aube d'une nouvelle époque qu'on a désignée sous le terme de romantisme. Sur sa tombe, à Königsberg, est gravée une de ses plus célèbres maximes. « Deux choses ne cessent de remplir mon cœur d'admiration et de respect, plus ma pensée s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête ?» et la loi morale en moi. » Alberto s'enfonça dans son fauteuil. « Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui, » dit-il. « Je crois que nous avons vu l'essentiel. »
« Et d'ailleurs, il est 4h15. Attends juste un instant, s'il te plaît. Il n'est pas dans mes habitudes de quitter le cours avant qu'il soit terminé. T'ai-je dit que Kant pensait que nous n'avions aucune liberté en tant qu'être sensible ? Oui, quelque chose dans ce genre-là.
Mais si nous suivons la raison universelle, nous sommes libres et indépendants, n'est-ce pas?
Tu as vraiment besoin de tout reprendre?
Alberto se pencha vers Sophie, la regarda droit dans les yeux et chuchota. Ne te fie pas à ce que tu vois, Sophie.
Qu'est-ce que tu entends par là?
Tu n'as qu'à te retourner, mon enfant.
Je ne comprends rien à ce que tu racontes.
On dit souvent qu'il ne faut rien croire avant d'avoir vu de ses propres yeux. Mais cela aussi est faux.
Tu m'as déjà dit ça ou je me trompe?
Non, c'était à propos de Parménide.
Je ne comprends toujours pas bien où tu veux en venir.
Oh, tu sais bien, nous étions tranquillement assis dehors à discuter et un énorme serpent de mer a surgi du lac.
Oui. C'était bizarre, hein?
Pas le moins du monde. Puis le petit chaperon rouge est venu sonner à la porte en disant « Je cherche la maison de ma grand-mère. » Ça commence à devenir pénible, Sophie, toutes ces facéties du major. C'est comme cette lettre écrite sur une banane ou l'orage insensé de l'autre jour.
Est-ce que tu crois que
je t'ai dit que j'avais un plan? Aussi longtemps que nous nous laisserons guider par la raison, il ne réussira pas à nous tromper. Nous sommes d'une certaine manière libres. Il peut nous faire percevoir toutes sortes de choses sans nous étonner le moins du monde. Si ça l'amuse de faire voler des éléphants dans les airs, il récoltera tout au plus un sourire de notre part. Alors que 7 plus 5 feront toujours 12. C'est une connaissance qui dépasse de loin tous ces effets de bande dessinée. La philosophie est tout le contraire d'un conte.
Sophie resta silencieuse à le regarder d'un air étonné.
« Bon, il est temps que tu rentres chez toi », finit-il par dire. « Je te ferai signe pour notre prochaine rencontre sur le romantisme. Nous parlerons alors de Hegel et de Kierkegaard. Il ne nous reste qu'une semaine avant le retour du major. D'ici là, il faut que nous nous soyons libérés de son imagination tentaculaire. Je ne t'en dis pas plus, Sophie, mais sache que je suis en train d'élaborer un plan fabuleux pour nous deux. Alors, je m'en vais. Attends, nous avons peut-être oublié le plus important. Ah bon? La chanson d'anniversaire, Sophie. N'oublie pas que Hilde a 15 ans aujourd'hui.
Moi aussi?
C'est vrai. Allez, on chante. Ils se levèrent tous les deux et entonnèrent. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, cher Hilde. Happy birthday to you. Il était 4h30. Sophie courut vers le lac et rama de l'autre côté. Elle tira la barque parmi les roseaux et traversa le bois en courant. Elle aperçut soudain sur le sentier quelque chose qui bougeait entre les troncs d'arbres. Elle pensa au petit chaperon rouge qui se rendait seul chez sa grand-mère, mais la silhouette était beaucoup plus petite. Elle se rapprocha. La silhouette avait la taille d'une poupée de couleur brune, mais avec un pull-over rouge. Elle s'arrêta comme clouée sur place en comprenant que c'était un petit ours en peluche. Qu'on abandonne un ours en peluche dans la forêt n'était pas en soi une chose extraordinaire, mais celui-ci était bien vivant et semblait très occupé. « Bonjour !» lança Sophie. La frêle silhouette se retourna sur le champ.
« Je m'appelle Winnie l'ourson !» répondit le petit ours. « Je me suis perdu dans la forêt, sinon cela aurait été une belle journée, mais je n'étais encore jamais vu toi !»
« Peut-être que c'est moi qui ne suis jamais venu ici avant, » dit Sophie. « Et toi, tu es chez toi dans la forêt des 160 matins. »«
Non, je ne sais pas compter jusque-là. N'oublie pas que je suis un ourson qui n'a pas beaucoup de cervelle. »«
J'ai entendu parler de toi. »«
Alors, c'est toi qui t'appelles Alice ?»«
Christopher Robin m'a parlé de toi un jour. C'est comme ça qu'on a dû se rencontrer. » Tu as vidé une bouteille et es devenue de plus en plus petite. Ensuite, tu as bu d'une autre bouteille et tu as retrouvé ta taille. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans sa bouche. Un jour, j'ai tellement mangé que je ne pouvais plus sortir d'un terrier.
Je ne suis pas Alice.
Ça n'a pas grande importance de savoir qui on est. L'essentiel, c'est d'exister. « C'est la chouette qui dit ça, et elle est très intelligente. 7 et 4 font 12, voilà ce qu'elle a dit comme ça un dimanche en passant. I.A. et moi étions très embarrassés, car c'est pas facile de calculer. De prévoir le temps qu'il va faire, ça, c'est autrement plus facile. »«
Je m'appelle Sophie. »«
Enchantée d'avoir fait ta connaissance. Tu dois être nouvelle dans le coin, mais il faut que je m'en aille, car je dois retrouver mon chemin pour rejoindre mon ami le cochon. Il y a une grande fête dans le jardin de Bugs Bunny avec tous ses amis. »
Il leva une des pattes en signe d'adieu. Sophie remarqua, à cet instant, qu'il tenait un papier dans l'autre.
« Qu'est-ce que tu tiens là ? » demanda-t-elle.
Winnie l'ourson brandit le papier en déclarant
« C'est à cause de ça que je me suis perdu. »«
Mais ce n'est qu'un bout de papier. »«
Non, ce n'est pas qu'un bout de papier, c'est une lettre pour Hilde de l'autre côté du miroir. »«
Dans ce cas, je la prends. »«
Mais ce n'est pas toi, la fille de l'autre côté du miroir. »
« Non, mais... »«
Je dois remettre la lettre en personne. Christopher Robin me l'a suffisamment répété hier soir. »
« Mais je connais Hilde. »
« Aucune importance. Même si tu connais très bien quelqu'un, tu ne dois pas lire son courrier. »
« Je voulais dire que je peux remettre la lettre à Hilde. »
« Dans ce cas-là. Tiens, Sophie, dès que je me serai débarrassé de cette lettre, je réussirai à retrouver mon chemin pour aller chez mon ami le cochon. Mais pour trouver Hilde de l'autre côté du miroir, il faut d'abord avoir un grand miroir. »
Ça ne court pas les rues par ici. »
Sur ces mots, l'ourson tendit la lettre qu'il tenait à Sophie et continua son chemin en gambadant dans la forêt. Une fois qu'il eut disparu de sa vue, Sophie déplia la lettre et lut. Cher Hilde, c'est une honte qu'Alberto n'ait pas dit à Sophie que Kant se déclara ouvertement pour la création d'une assemblée des peuples. Dans son projet de paix perpétuelle, il écrivit que tous les pays devaient s'unir pour former une assemblée des peuples qui veillerait à la paix entre toutes les nations. Il fallut attendre 125 ans après la parution de ce texte, en 1795, pour que soit créée la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale. Elle fut remplacée, après la Deuxième Guerre mondiale, par les Nations Unies. Kant est en quelque sorte le parrain de l'idée des Nations Unies. Seule la raison pratique de l'homme permettait de faire sortir les États, selon Kant, d'un état naturel qui les poussait à d'incessantes guerres entre eux et pouvait créer un nouvel ordre international qui empêcherait les guerres. Le chemin jusque-là n'était pas tout tracé, mais il incombait à l'homme de travailler en ce sens pour assurer la paix durable et universelle. La création d'un tel organisme était pour Kant un but lointain. C'était quasiment le but ultime de la philosophie. Cela dit, pour l'instant, je suis encore au Liban. Ton papa qui t'embrasse. Sophie fourra la lettre dans sa poche et rentra chez elle. Alberto l'avait mise en garde contre de telles rencontres dans la forêt. Mais elle ne pouvait quand même pas laisser le pauvre ourson errer dans la forêt à la recherche d'une improbable Hilde de l'autre côté du miroir.